Bonjour à tous.
Je croyais que ce n'est pas nous qui péchons, mais je ne sais quelle nature étrangère qui pêche en nous. Et mon orgueil se complaisait à l'idée de n'avoir part au péché. Et quand j'avais commis une action mauvaise, il lui était agréable que je n'eusse pas à m'en reconnaître l'auteur pour obtenir de vous la guérison de mon âme qui péchait envers vous.
Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance, où toute cette semaine, du premier au dernier livre de ses confessions, c'est saint Augustin qui emprunte le chemin de la conversion sous la forme de ses aveux. Après avoir avoué hier qu'il était un être imparfait, à la mémoire défaillante et amoureux des autres et surtout de lui-même, avant qu'il n'avoue demain comment il a dépassé cette crise existentielle, et avant encore après-demain qu'il n'avoue comment retrouver mieux que la mémoire, c'est-à-dire l'éternité, c'est le moment d'écouter ses expériences et réflexions sur l'origine du mal. Et l'équipe des Nouveaux Chemins passe aux aveux sans jamais être coupable. Marianne Chassor, Lucie Tardy, Antoine Ravon, David Pargamin, Denis Ramon et bien sûr Adèle Vendrette, avec Mylia Portis-Guérin à la réalisation, Olivier Martineau à la lecture des textes et à la prise de son aujourd'hui, Anthony Thomasson. Nous tentons de placer notre monde individuel et limité au-dessus de l'infini. Par là, nous perturbons le cycle des choses. C'est là notre péché originel. Tous les phénomènes du cosmos et de la Terre se meuvent comme les corps célestes, de façon circulaire. Ils sont un éternel retour. Seul l'homme, l'être humain concret, suit un trajet rectiligne, de la naissance à la mort. Il n'existe pas pour l'homme de retour personnel. Il ne ressent que sa chute. Par là, il contrecarre l'ordre du cosmos. C'est le péché originel. Et nier ce péché originel, c'est nier Dieu et nier l'homme. Peut-être l'homme ne tient-il sa liberté que du fait d'être mortel. Qui peut le savoir ? À écouter Kafka, l'homme serait-il un être d'exception, le seul à pouvoir chuter, le seul à pouvoir pécher et le seul à pouvoir commettre le mal? À l'écouter, ne pas chuter, ne pas pécher, ce serait même cela, le péché. Comment donc être libre, chuter, mourir, pour mieux être un homme, pour mieux croire aussi? Réponse avec un kafkaïen avant l'heure, saint Augustin, et avec aujourd'hui pour nous éclairer sur la voie des livres 4 à 7 de ses confessions, Dominique Salin, professeur émérite à la faculté jésuite de théologie de Paris, auteur notamment de L'expérience spirituelle et son langage, leçon sur la tradition mystique chrétienne. Bonjour et bienvenue à vous.
Merci, bonjour.
Pendant cette période de 9 ans, de ma 19e à ma 28e année, jouais de mes passions diverses. Je fus séduit et séducteur, trompé et trompeur. En public, par l'enseignement des sciences qu'on dit libérales, en secret, sous le faux nom de religion. Ici, proie de l'orgueil, là de la superstition et partout de la vanité. D'un côté, je poursuivais le fantôme de la gloire populaire jusqu'aux applaudissements du théâtre, aux concours de poésie, aux joutes pour des couronnes de foin, aux bagatelles des spectacles, aux passions déréglées. D'un autre côté, j'aspirais à me purifier de ces souillures.
Et pour tout ça,
chanteur, je chante pour mes copains. Je veux faire des tubes et que ça tourne bien, tourne bien.
Dominique Salin, est-ce que l'on peut dire que Saint-Augustin est un petit peu comme le chanteur de Daniel Balavoine, à savoir à la recherche de gloire, de vanité, de gens et de femmes qui se jettent sur lui ?
Tout à fait, tout à fait. C'était son principal problème, car avant d'être un problème philosophique, métaphysique, la question du mal, de son origine, de ses explications, a été pour Augustin une réalité existentielle, un problème existentiel. L'acte premier qui se joue alors qu'il a 17 ans, au moment où il commence ses études universitaires, disons, à Carthage, ses études de rhétorique, c'est un choc terrible, formidable, qui a été, disons, sa première conversion, qui a été souvent sous-estimée par les biographes, mais qui est presque aussi importante que la seconde conversion dont il sera question demain. Cette conversion, c'est à la lecture d'un ouvrage de Cicéron, l'Hortensius, la présentation de l'orateur idéal, espèce d'autoportrait par Cicéron d'ailleurs. Et l'orateur idéal, c'est le sage stoïcien. Donc c'est la philosophie stoïcienne, la sagesse stoïcienne, la spiritualité stoïcienne. Pour les anciens, c'est la même chose. Il lit ça et il est ébloui. Il veut devenir un saint. Donc à 17 ans, Augustin veut devenir un saint.
Et c'est ça le péché, c'est de vouloir devenir un saint.
Alors ça, je ne sais pas, on va pouvoir en discuter. Oui, la façon dont il s'y est pris, il va la juger, en effet, vous avez raison, pécamineuse. En fait, à ce moment-là, il vient de se mettre en ménage avec une femme qu'il adore, à laquelle il va être fidèle pendant 16 ans. Il va avoir un petit garçon. Et il veut devenir comme le sage stoïcien. Or, qu'est-ce que c'est que le sage stoïcien ? C'est un homme détaché. Détaché de la gloire, du qu'en dira-t-on, du souci de l'image qu'il peut donner de lui-même. Détaché des biens matériels. Un homme aussi détaché ou maîtrisant parfaitement sa sexualité. Pour Augustin, c'est très important, nous y reviendrons. L'idéal du célibat, l'idéal de continence, fait partie de l'idéal païen stoïcien. C'est pas du tout une invention du christianisme. C'est grec, ça. Donc, voilà ce qu'il veut. Et dans les 12 ou 13 années qu'il va vivre, ses années de formation, puis l'exercice de sa profession à Carthage, à Rome, à Milan, pendant toutes ces années-là, il va se rendre compte de plus en plus qu'il n'est pas un saint. Et que non seulement il n'est pas un saint, mais il est effroyablement attaché à ce que vous avez souligné, c'est-à-dire la recherche à l'arrivisme. Comme disait Lucien Gerfagnon hier, l'arrivisme. Arriver, être le premier, être le meilleur. Et il a réussi, parce que n'oublions pas qu'en 12 ans, lui qui était fils d'un petit paysan fauché de la Kabylie, son père n'avait pas d'argent pour les payer les universitaires, il a eu une bourse, il a terminé au plus haut sommet du cursus honorum. Il était l'orateur attitré de la cour impériale à 32 ans, au moment où il démissionnera de ses fonctions de grand professeur et d'orateur officiel pour devenir moine et devenir chrétien. Il était sur le point, dit-il, d'obtenir le gouvernement d'une province. Donc il allait être gouverneur d'une province romaine. Donc il a eu un succès prodigieux. C'est un immense séducteur, très doué, etc. Alors il s'en veut, il s'en voudra beaucoup d'être comme ça.
D'être ambitieux.
D'être ambitieux et attaché à l'argent. Ça aussi, ça compte. Et puis aussi, mais nous y reviendrons, le poids de la sexualité. Sa sexualité, il l'a subie plus qu'il ne l'a aimée, et finalement, il s'en est détaché. Mais enfin, ce sera autre chose. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, et c'est ce qu'évoquait le premier texte que vous avez fait écouter au début de l'émission.
C'est le tout début du livre 4.
Voilà, au tout début du livre 4, il est épris, il est tombé amoureux de Sophie, amoureux de la sagesse. Il veut vraiment, mais il l'aime, comment on peut aimer une femme ?
Il veut devenir un saint. Il dit qu'il s'embrase pour la sagesse.
Absolument, absolument. Il n'y a qu'un éros hein, pour Augustin. Il n'y a qu'un amour. Amour de Dieu, amour de la femme. L'amour de soi n'est qu'un amour de Dieu gauchis. Il n'y a qu'un amour. Bon, il veut absolument, il est pris de spiritualité, il aspire à la haute spiritualité, et il rencontre, à ce moment-là, à Carthage, une église souterraine, en principe condamnée par le pouvoir impérial, qui s'appelle l'église manichéenne. Une église semi-clandestine, qui a un certain, bénéficie d'un certain prestige auprès des intellectuels. C'est une église qui présente une doctrine extrêmement simple et qui va tout de suite répondre à sa grande question, d'où vient le mal ? Pourquoi est-ce que moi, Augustin, je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire, et pourquoi fais-je le mal que je ne voudrais pas faire ?
Voulais-je penser à mon Dieu, je ne savais me représenter qu'une masse corporelle. Rien à mes yeux ne pouvait être sans être ainsi. C'était là la principale et presque la seule cause de mon inévitable erreur. C'est ce qui me faisait croire qu'il y avait comme une substance du mal. Masse affreuse, informe, soit épaisse, soit ténue et subtile, comme un corps aérien, esprit malin. Comme ma piété si peu éclairée fut-elle, m'obligeait à admettre que le Dieu bon n'avait créé aucune nature mauvaise, je mettais en antagonisme les deux masses, l'une et l'autre infinies. Mais la mauvaise sur une plus petite échelle, la bonne sur une plus grande échelle. Et de ce principe désastreux découlaient pour moi tous les autres sacrilèges. Il me paraissait plus pieux de vous croire infini dans toutes vos parties, ô mon Dieu, sauf sur une seule, celle où la masse du mal s'opposait à vous, que de vous supposer déterminé dans toutes vos parties selon la forme du corps humain. Il me semblait mieux croire que vous n'avez rien créé de mal, le mal apparaissant à mon ignorance, non seulement comme une substance, mais comme une substance corporelle, car je ne pouvais m'imaginer l'esprit que comme un corps subtil qui néanmoins se répandait dans l'espace, plutôt que d'admettre que la nature du mal, telle que je me la figurais, vint de nous. Aujourd'hui, vos spirituels riront de moi avec sympathie et bonté s'ils lisent mes confessions. Et pourtant, c'est comme cela que j'étais.
Dominique Salan vient d'entendre, interprété par Olivier Martineau, un extrait du livre 5 des Confessions, dans lequel saint Augustin passe de la question de l'expérience du mal à celle de la forme du mal. C'est une question métaphysique. Dans ce texte, il expose l'idée qu'il tient justement des manichéens que le mal serait une masse informe, antagoniste au bien. On retrouve précisément ici l'idée du manichéisme.
Tout à fait. C'est la doctrine, c'est le sens de la doctrine manichéenne. Le texte est très bien choisi. Donc c'est une religion qui avait été fondée un siècle plus tôt en Iran par un certain Manès, Manikaios, selon les traditions, qui a eu un immense succès, qui s'est étendu, qui a connu son maximum au XIIIe siècle à la cour impériale chinoise et qui est revenu en France au XIIe siècle avec les cathares. Les cathares, c'est un surgeon, on ne connaît pas très bien les canaux historiques, un surgeon du manichéisme dans la région de Toulouse. Donc c'est une gnose, c'est-à-dire une sagesse, une philosophie qui repose sur un dualisme extrêmement simple. Il y a deux racines à l'origine de tout, deux racines, deux principes, de Dieu, si vous voulez. Le mot Dieu n'est pas prononcé. Lui, Augustin, parlera de Dieu. Le bien, le mal, la lumière, les ténèbres et surtout l'esprit, la matière. Pour Augustin, c'est une illumination. Ce qui compte, c'est l'esprit, c'est la matière. Mais le problème, c'est que ces deux entités, ces deux puissances, ces deux dieux, dans le manichéisme, sont absolument aussi puissants l'un que l'autre. Alors la doctrine manichéenne raconte qu'à l'origine des choses, les deux royaumes du bien et du mal étaient séparés l'un de l'autre, mais un jour le royaume du mal a voulu envahir le royaume du bien. Il s'en est ensuivi une effroyable mêlée, au terme de laquelle le bien a relativement et provisoirement établi une autre forme d'équilibre avec les morceaux de viande, les os, les excréments des mauvais esprits. Les soldats du bien ont construit la terre, les montagnes, le ciel. Bon, toute la matière s'est faite avec du mal. La matière est mauvaise. y compris naturellement la sexualité, puisque ça fait partie de la matière. Alors le soleil et les étoiles sont d'une matière un peu moins impure que le reste. Alors la vie du manichéen, le manichéen c'est un homme en qui se mêlent le mal et le bien. Un petit morceau, une petite parcelle de la lumière divine est enfermée dans ce corps prison matériel qui est mauvais. Et en fait nous avons deux âmes, une âme bonne et une âme mauvaise, une âme spirituelle et une âme matérielle. Alors quand Augustin a entendu tout ça, mais il a tout compris, mais voilà, il y a en moi, un peu comme chez Baudelaire, hein, la double postulation, une vers le bien, une vers le mal. Baudelaire était, d'une certaine façon, un peu manichéen, chrétien, mais manichéen. Et tout le monde est un peu manichéen, d'ailleurs, tenté par ça. Donc il y a en moi une âme spirituelle, et puis une âme mauvaise. Et quand je fais le mal, ou quand je ne fais pas le bien, c'est pas mon âme spirituelle, c'est pas mon vrai moi qui pêche, qui fait le mal, c'est mon âme matérielle, c'est pas grave. Alors en bon manichéen, je vais faire ce qu'on me propose, c'est-à-dire... Bon, je ne peux pas être moine manichéen puisque je suis marié et que je ne peux pas renoncer à ma femme, à la femme en général. J'ai trop besoin de voir une femme dans mon lit, je ne peux pas m'en passer. Bon, mais je vais m'efforcer de vivre selon les principes manichéens. Et si je suis vertueux, si je ne bois pas trop de vin, si je ne vole pas, si je ne blasphème pas, si je ne tue pas, bon, eh bien, peu à peu, mon âme spirituelle va se dégager de mon âme, de mon corps matériel, et elle ira se joindre à celle qui, chaque mois, après ma mort, remonte vers la lune. C'est pour ça que la lune s'enfle chaque mois de toute la matière spirituelle qui remonte, et elle la dégorge ensuite vers le soleil. Voilà. Donc voilà en très gros la doctrine manichéenne qui a enchanté Augustin.
Qui est une doctrine complètement délirante.
Ah,
d'ailleurs dans ce texte qu'il a fait une inévitable erreur et qu'il a cru en cette doctrine.
Alors, il s'en voudra énormément d'être tombé dans le panneau. Parce qu'en effet, cette doctrine, je ne vous ai pas raconté toute la mythologie manichéenne adjacente. C'est vraiment l'univers de la BD. Hein. Vous avez la guerre des monstres, des bons comme des méchants.
Oui, c'est Star Wars, c'est le bien et le mal.
Absolument. La BD du XXe siècle, XXIe siècle, repose sur ces structures-là. Alien 2, par exemple, c'est tout à fait quelque chose de typiquement manichéen, le film. Bon, donc, c'est quelque chose de reposant pour l'esprit et qui lui a expliqué, et surtout qui l'a déculpabilisé.
Oui, parce que c'est ça quand même la grande force du manichéisme, c'est à la fois de dire que le mal vient de l'homme, qu'il est en nous, mais que l'homme n'en est pas pour autant responsable.
Il n'en est pas responsable, et c'est pas de sa faute s'il fait le mal. Voilà, c'est mon âme matérielle en moi qui fait le mal. Alors, il a cru aussi à toute une mythologie sur laquelle je passe, et surtout, ce qui l'impressionnait beaucoup, c'était les théories scientifiques des manichéens, en particulier l'astronomie. Il y avait beaucoup de doctrines astronomiques très élaborées.
Il est beaucoup question de faire des thèmes astro dans la confession.
Absolument, il y a la question de l'astrologie. Oui, ça, Augustin, comme évêque, tonne contre l'astrologie, qui était la grande tentation de tout le monde, qui le reste d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais en fait, c'était l'astronomie, et ça l'impressionnait beaucoup. Et donc, ce qui a fait qu'il a adhéré au manichéisme, c'est que, premièrement, ça le déculpabilisait. Secondement, ça apportait une réponse rationnelle à l'existence du mal. Parce que Augustin, il ne faut jamais oublier ça, c'est un homme pour qui la raison est extrêmement importante, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas du tout un sentimental. C'est un homme qui est rationaliste au bon sens du mot. À l'époque surtout, dit-il, je voulais avoir de ce qui ne se voit pas la même certitude que de 5 et 5 font 10. Donc c'est un homme qui est épris de rationalité. Et il trouvait dans le manichéisme une explication. Alors ce qui s'est passé, c'est que très vite, il s'est rendu compte de ce que l'astronomie manichéenne, ça ne correspondait pas à la réalité.
Donc il va d'abord faire une critique rationnelle et scientifique au manichéisme.
D'abord, de l'astronomie. Il va s'apercevoir que l'astronomie païenne des Grecs a raison et que l'astronomie manichéenne ne pouvait pas prévoir, elle, les marées, les éclipses, etc., alors que l'astronomie grecque le pouvait. Et donc il s'est dit quand même une doctrine comme ça, qui se trompe sur le plan scientifique, peut-être que sur le plan religieux, parce qu'il commençait à trouver un peu simplet quand même cette théorie. Et alors un jour, on l'a fait rencontrer le grand théologien de l'église manichéenne, un certain Faustus. On lui disait, mais Faustus va t'expliquer tout, tu verras, il résoudra tous tes problèmes. Et la rencontre a lieu, en effet, à Carthage. Il découvre un homme absolument charmant.
Oui, alors la rencontre de Faustus. Ce récit est assez incroyable parce que Faustus a une voix suave, une éloquence charmante. Saint-Augustin est sous le charme, en fait. C'est ça, il est séduit.
Il est très séduit par cet homme. Alors, il n'est pas dupe du tout du langage, comme c'est un professeur de rhétorique. Il connaît toutes les ficelles, donc il n'est pas du tout impressionné par son beau langage qui séduisait tout le monde, mais par sa franchise. Parce que tout de suite, Faustus a dit à Augustin, mais vous savez, moi j'ai rien lu. Hein, je
connais rien. Est d'une modestie incroyable.
D'une immense modestie.
Il a lu très peu de poésie, très peu de pièces, il a lu à peine Sénèque.
Il était inculte, mais il était très doué pour parler, il s'entraînait. Alors, finalement, c'est ça qui est formidable, c'est qu'Augustin s'est mis à lui donner des répétitions particulières, des cours particuliers de littérature, parce qu'il a trouvé Faustus extrêmement sympathique. Mais cette découverte a ruiné dans son esprit la crédibilité du manichéisme. Et disons qu'au bout de 2 ou 3 ans, si vous voulez, après son entrée dans l'église manichéenne, il va abandonner intérieurement cette doctrine, il n'y croira plus. Mais, et ça c'est vraiment un signe de son arrivisme, il va continuer à faire partie de l'église parce que les appuis que cette église lui permet dans l'université et ensuite pour traverser la Méditerranée, pour aller à Rome. À Rome, il va être hébergé par un manichéen. Son déménagement sera financé par des manichéens. Donc officiellement, si vous voulez, jusqu'à Milan, il va rester officiellement manichéen.
Dominique Salin, c'est Saint-Augustin en revenant, en fait, en réancrant le mal en l'homme, par exemple son illusion qu'il a eue avec les manichéens, lui permet aussi de revenir à une conception du mal qui serait en l'homme. C'est-à-dire qu'il a été lui-même s'en veut d'avoir cru, d'avoir été séduit, d'avoir été pris dans l'illusion des manichéens. Il va donc aller d'une illusion à une désillusion. Et c'est ça qui va lui permettre aussi de penser le mal à partir de sa propre erreur. L'erreur de jugement qu'il a eue est une erreur morale, c'est une faute.
Voilà, elle est une faute. Mais enfin, avant de prendre... il dit ça au moment où il écrit les confessions.
Il le dit en tout cas dans le texte
tout à
qu'on
fait,
a entendu.
À ce moment-là, bien sûr, parce que les confessions, si vous voulez, la temporalité est à plusieurs niveaux dans les confessions. Constamment, il fait des analepses ou des problèmes, des retours en arrière. Alors, il faut faire très attention. Mais c'est un fait qu'il est resté, en fait, en réalité, pendant plusieurs années, il va philosophiquement adopter, à l'égard des grands problèmes, l'existence de Dieu, l'origine du mal, il va adopter la posture sceptique, dit-il, des néo-académiciens, des néo-platoniciens, bon, enfin, peu importe les noms, une forme de scepticisme. Il est extrêmement déçu, il ne croit plus à rien. L'Église catholique les carabistouille, les manichéens l'ont trompé, donc il ne croit plus à rien. Et il est vraiment déprimé, vous savez, et quand il va arriver à Rome, 2-3 ans avant sa conversion, il est en pleine dépression nerveuse et en déconfiture intérieure. Alors, quel est son problème? C'est qu'il ne peut pas arriver à se représenter une réalité spirituelle. Nous dit-il rétrospectivement, je ne pouvais, dans le texte que vous avez fait entendre tout à l'heure, je ne pouvais me représenter Dieu que comme le Dieu finalement des manichéens, une espèce d'immense volume lumineux, sans aucune, comme un corps gazeux, si vous voulez, un immense volume qui embrasse tout le cosmos, c'est-à-dire la Terre, tous les cieux, etc. Mais qui a un certain espace. Car, dit-il, à l'époque, j'étais incapable de me représenter des êtres spirituels, des substances spirituelles. Alors, le mal. Mais quand même, Dieu, il pensait que Dieu était bon. Ça, il a toujours pensé que Dieu existait, si vous voulez, mais il n'arrivait pas à se le représenter. Et ça lui a torturé l'esprit. Et de même le mal. Parce que si Dieu est, il est bon, comment peut-il avoir créé cette horreur qu'est le mal ? Pas dans l'entreprise.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est une semaine que nous passons à lire les confessions de Saint-Augustin et aujourd'hui, nous nous demandons d'où vient le mal à partir des livres 4 à 7 et en compagnie de Dominique Salin, professeur émérite à la faculté jésuite de théologie de Paris, auteur de L'expérience spirituelle et son langage, leçon sur la tradition mystique chrétienne, mais aussi à l'initiative de l'édition critique de L'abandon à la providence divine que l'on attribuait autrefois à Jean-Pierre de Caussade et que l'on trouve chez Desclés des Brouwers.
Déjà je soutenais, si je croyais fermement que vous n'êtes susceptible ni de souillure ni de changement, ni d'altération quelconque, ô vous notre Seigneur Dieu véritable, qui avez fait non seulement nos âmes mais aussi nos corps, non seulement nos âmes et nos corps, mais tout être et toute chose, pourtant le problème de la cause du mal n'était pas encore à mes yeux déjoué ni dénoué. Quelle que fût cette origine, je voyais qu'il me fallait conduire mon enquête de manière qu'elle ne me réduisît jamais à croire muable le Dieu immuable. Autrement, je serais devenu moi-même ce que je cherchais. J'essayais d'élever hors de l'abîme la vue de mon esprit, et j'y plongeais de nouveau, et malgré mes efforts réitérés, je m'y enfonçais encore et encore. Mais alors je reprenais, qui m'a créé? N'est-ce pas mon Dieu qui est bon, qui est la bonté même? D'où m'est venu dès lors de vouloir le mal? Est-ce pour que je subisse des châtiments qui soient mérités? Qui a donc déposé, qui a semé en moi tous ces germes d'amertume, puisque j'ai été créé tout entier par mon Dieu si doux? Si c'est le démon qui m'a fait, d'où vient le démon lui-même? Ces pensées me démontaient et me suffoquaient. Pourtant, je ne descendais pas jusqu'au gouffre d'erreur, où l'on préfère vous assujettir au mal, plutôt que d'admettre que l'homme fait le mal.
Dominique Salin, c'est un extrait du livre 7 des Confessions, chapitres 3 et 4, interprété par Olivier Martineau, que l'on vient d'entendre. On retrouve ce problème de l'origine du mal. Saint-Augustin est face à cette contradiction qui est que d'un côté, le mal est en l'homme et en même temps, l'homme est une création de Dieu. C'est exactement ce qu'on a entendu dans l'extrait du film Orange Mécanique de Stanley Kubrick qui date de 1972, dans lequel ce personnage, Alex, dit d'un côté qu'il a fait le choix de faire le mal, mais que maintenant, par la grâce de Dieu, il est guéri. Alors comment articuler créature de Dieu forcément bonne et en même temps production du mal?
La comparaison avec Augustin est un petit peu poser, parce que moi je crois que quand il fait allusion à la grâce de Dieu, c'est pour attendrir ces tortionnaires qui sont en train de lui infliger un horrible, dans Orange Mécanique, hein, si je me souviens bien, un horrible supplice pour le convertir. Quand il invoque la grâce de Dieu, c'est pour, j'allais dire, les attendrir. Je ne suis pas sûr qu'il y croit. Augustin, lui, en revanche, va y croire. Donc nous l'avons abandonné dans cet état d'intense perplexité que l'extrait que nous avons entendu retrace. Si Dieu est, il est bon, il ne peut pas avoir créé quelque chose de mauvais et quelque chose qui soit contre lui, qui soit mauvais. Alors la substance du mal, d'où vient-elle si ce n'est pas Dieu qui l'a faite? Donc il est au comble de la perplexité. À ce moment-là, il a environ 30 ans. Il est à Rome, disons, c'est 2 ans avant sa conversion. Alors, je ne vais pas raconter comment il va être mis sur le chemin de la vérité, comment il va se convertir. Monsieur Marion en parlera demain. Je vais maintenant expliquer la solution qu'a découverte Augustin dans le christianisme, mais qu'il a découverte beaucoup, beaucoup plus tard, mais qu'il raconte, qu'il rapporte, qu'il injecte un petit peu par avance déjà dans son récit, avant de faire le récit de sa conversion. Alors, il nous explique la solution, la réponse que lui a apportée le christianisme, c'est que, alors c'est d'abord le christianisme qui lui a apporté ça, c'est le néoplatonisme qu'il va découvrir à Milan. Monsieur Marion expliquera cela. En tout cas, il va comprendre que le mal n'est pas une substance. Le mal n'a pas de réalité, d'une certaine façon. C'est pas un anti-dieu, c'est pas un petit morceau de la création qui aurait échappé au pouvoir créateur de Dieu. Le mal, il est où? C'est sa définition au livre 7, paragraphe 16. Le mal n'est pas une substance, mais la perversité d'une volonté qui se détourne de la souveraine substance de Dieu pour se jeter dans les choses basses.
On va entendre ce texte tout à l'heure, Dominique voilà. Salin. Ah bon. Mais alors, juste avant, quel est le problème que rencontre Augustin? C'est-à-dire effectivement l'articulation entre l'homme est mauvais et en même temps c'est une créature de Dieu. Mais l'autre problème qui est aussi dans ce texte, c'est le problème de la matière. C'est-à-dire qu'il y a ce problème qui résiste, qui est qu'il se représente Dieu comme une masse informe, il n'arrive pas à penser un être spirituel, il n'arrive pas à penser un Dieu qui à la fois soit créateur sans être matériel.
Exactement. Alors, ça sera la révélation du christianisme de lui faire découvrir que Dieu n'est pas une masse, n'est pas un être matériel. Mais moi, je ne peux pas vous raconter là comment il a découvert ça, si vous voulez. C'est la conversion, c'est ce qui sera raconté demain. Donc, je suis obligé de sauter, si vous voulez, par...
Vous pouvez nous en dire quelques mots.
Cette étape. Bon, ça va... En lisant, si vous voulez, Plotin, la sagesse néo-platonicienne, le plotinisme, c'est Platon, si vous voulez, mais c'est un platonisme, une religion, une religion de salut. Le plotinisme. Et Plotin est un, il ne croit pas en Dieu, Plotin c'est l'un, il est toujours l'un. Dieu est un être éminemment spirituel, l'un. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire un exposé de néoplatonisme, ce n'est pas le moment, mais simplement vous suggérer que les néoplatoniciens païens, adaptés par des intellectuels catholiques de Milan dont faisait partie l'archevêque, vont le mettre au contact de cette pensée de Dieu qui n'est plus à penser sur le modèle manichéen, si vous voulez, d'un immense volume matériel, mais Dieu comme être, si vous voulez, spirituel. Et l'âme est une réalité spirituelle. Donc, le mal ne peut pas être, en effet, l'œuvre d'un Dieu créateur qui serait bon. Le mal, en réalité, comme chez Platon, c'est du non-être. Le mal n'a pas de consistance en lui-même. C'est nous, les êtres humains, alors là j'entre dans l'explication que, devenu chrétien, il expliquera à ses fidèles, il enseignera à ses auditeurs, à ses fidèles, à ses diocésains, aux gens qui liront ses œuvres. Le mal, en fait, c'est simplement le constat. On ne connaît pas son origine, c'est un mystère.
Donc la solution on sait pas d'où ça de vient, Saint-Augustin,
mais
c'est
on le constate en nous. Et cette constatation, tout le monde l'a fait. Lorsqu'il parlera du péché originel, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que depuis toujours, partout, à toutes les époques, l'homme honnête constate qu'il ne fait pas le bien qu'il voudrait faire et qu'il fait le mal qu'il ne voudrait pas faire. Il y a quelque chose, une espèce de crampe, si vous voulez, dans sa volonté, dans sa capacité de se décider, une blessure en lui qui fait qu'il ne peut pas faire le bien ou agir conformément au bien complètement.
Mais finalement, est-ce une manière de répondre au problème de d'où vient le mal, de
non.
l'origine du mal,
non.
dire que c'est un mystère, dire que
oui.
finalement, c'est
oui.
aussi une manière de dire que l'homme est libre. Au tout début de l'émission, j'ai lu un texte de Kafka, c'était dans des entretiens qu'il a donné. Dans ce texte, il dit que finalement, la liberté même de l'homme se repère au fait qu'il puisse chuter, au
vous
fait
avez...
qu'il puisse pécher.
Vous avez tout à fait raison, et c'est une raison, c'est une des raisons principales qui lui ont fait abandonner le manichéisme, c'est que dans le manichéisme, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de libre arbitre.
Il n'y a pas de responsabilité de l'homme.
Non, il y a une totale irresponsabilité. Or, Augustin tenait énormément. Il se rendait bien compte, dit-il, que quand j'agissais mal, c'était moi qui agissais mal. C'était pas quelqu'un d'autre. Quand je voulais ceci, quand je voulais pas faire cela, c'était moi qui décidais. Même si après je me mordais les doigts ou j'avais des scrupules. Mais c'était moi. Donc, il a toujours cru à ce qu'il appelle le libre arbitre, à la liberté. Et c'est pour ça qu'il a quitté le manichéisme. Et le christianisme, en particulier Saint Paul, parce que c'est la lecture de Saint Paul qui va, avant de lire l'évangile même, probablement il a lu Saint Paul, c'est la lecture de Saint Paul qui va le mettre sur la piste de la solution, à savoir que, comme dit Saint Paul, je fais le bien, que le mal que je ne veux pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, c'est parce que ma volonté est blessée, ma liberté est blessée, la liberté de l'homme est blessée. C'est pas une réponse à la question d'où vient le mal et qu'est-ce que le mal ? Bien sûr, c'est pas une réponse.
Mais non, parce que le problème, c'est que la question d'où vient le mal est peut-être forcément mal posée pour saint Augustin, puisque Dieu est à la source de tout. Ce serait dire que Dieu contient du mal, produit du mal, est la source du mal. Donc il décale légèrement la question en étant face au problème. Comment penser à la fois la liberté de l'homme, c'est grâce au mal que je vais penser la liberté de l'homme, et en même temps, il faut que j'essaye de penser une liberté qui lui permette, qui lui donne envie de faire le bien. Or, il a bien vu que le concept des, que la conception de vie, de l'ascétisme des stoïciens échouait, il n'y arrive pas abstraitement. Alors, quelle va être la solution qui va le conduire à cette voie-là? Est-ce que ça va être la foi, la conversion? Et à ce moment-là, ce serait non pas une manière véritablement de rationaliser les choses ou de penser une spiritualité des choses, mais d'aller vers quelque chose de beaucoup plus profond finalement, qui serait effectivement de l'ordre de la croyance.
Oui, tout à fait. Mais c'est de l'ordre de la croyance. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la conviction d'Augustin, converti au christianisme, ayant lu saint Paul, ayant longuement médité l'écriture, etc., et complètement pénétré le christianisme. Donc, il maintient cette affirmation que le mal, ben, on ne sait pas vraiment ce que c'est, et je trouve que c'est extrêmement moderne. Le mal, c'est quelque chose qui est inintégrable par la pensée. Enfin, Auschwitz, on ne peut pas intégrer ça, ce n'est pas intégrable intellectuellement. Bon, donc lui, le mal n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on constate dans son expérience. C'est une, encore une fois, une blessure de la liberté. Et alors le Dieu qu'il aime, c'est un Dieu qui a créé l'homme libre, y compris de le refuser. C'est ça qui le fascine dans le christianisme, c'est que Dieu a créé l'homme capable de refuser Dieu et capable de se préférer, lui, à Dieu.
Tout ce qui se corrompt est privé d'un bien. Et qu'une chose vienne à être privée de tout bien, ce sera le néant. Donc, aussi longtemps que les choses sont, elles sont bonnes. Donc tout ce qui est bon. Et le mal, dont je cherchais l'origine, n'est pas une substance, car s'il était une substance, il serait bon. Ainsi je vis, et ce fut pour moi une vérité évidente, que toutes vos œuvres sont bonnes, et au surplus, qu'il n'est point de substance qui ne soit votre œuvre. Et pour vous, le mal n'existe point du tout, non seulement pour vous, mais pour l'ensemble de votre création, car il n'y a rien en dehors d'elle qui puisse rompre et corrompre l'ordre que vous y avez établi. Mais parce que dans le détail, certains éléments ne s'harmonisent pas avec certains autres, on les tient pour mauvais. Or, ces mêmes éléments s'accordent avec d'autres, et en cela, ils sont bons. Ils le sont aussi par eux-mêmes. J'ai cherché ce que c'est que le mal, et j'ai trouvé que ce n'est pas une substance, mais la perversité d'une volonté qui se détourne de la souveraine substance. De vous, mon Dieu, pour se jeter dans les choses basses et qui projettent ses entrailles et se gonflent au dehors.
Dites donc, qui êtes-vous ?
J'ai déjà dit, Georges, je suis votre ange gardien.
Oui, oui, je sais, vous vous répétez. Vous êtes autre chose, sûrement. Vous êtes un hypnotiseur.
Non, sûrement pas.
Alors pourquoi est-ce que je vois toutes ces choses étranges ?
Vous ne comprenez donc pas, Georges. C'est parce que vous n'êtes pas né.
Alors dites-moi, qui je suis si je ne suis pas né ?
Vous n'êtes personne. Vous n'avez pas d'identité.
Oh, mais vous plaisantez, j'ai une identité, je m'appelle Georges Bellay.
Il n'y a pas de Georges Bellay. Vous n'avez pas de papier, pas de carte, pas de permis de conduire, pas de livret militaire et pas de police d'assurance. Non, ils n'y sont pas non plus.
Quoi ?
Vous cherchez les pétales de Suzanne. C'est un magnifique cadeau qu'on vous a fait, Georges. Vous avez la chance exceptionnelle de voir ce que serait le monde si vous n'aviez pas existé.
Attendez, s'il vous plaît, attendez un petit instant. Je suis certainement en train de faire un drôle de rêve. Je rêve, c'est ça. Au revoir, monsieur. À présent, je rentre chez moi.
Chez vous, vous n'avez pas de chez vous.
Oh, assez, ça suffit!
Dominique Salin, c'est un extrait de La vie est belle de Frank Capra qui date de 1946 qu'on vient d'entendre avec ce personnage, George, interprété par James Stewart, qui baisse les bras, qui a une sorte de perversion de la volonté, comme le dit Saint Augustin dans le texte qu'on a entendu, donc au livre 7, chapitre 12 de ses Confessions, ce texte que vous aviez évoqué auparavant. Pour Saint Augustin, le mal est donc une perversion de la volonté qui nous conduit au non-être, au néant, en fait à la non-identité, comme pour Georges dans La vie est belle, qui perd tout ce qu'il connaissait, qui est au monde sans exister.
Tout à fait. Pour Augustin, le mal, c'est une maladie. Et une maladie de la volonté. La création est bonne. Dieu n'a rien créé de mauvais. C'est pour cela d'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut s'expliquer la structure de, je fais un élargissement et une parenthèse, des Confessions. On s'est toujours interrogé, quand même, il y a 9 livres qui sont des livres autobiographiques, et puis tout d'un coup, il y a 4 livres dans lesquels Augustin fait de la haute spéculation philosophique et théologique. En réalité, les deux parties se correspondent parfaitement. Augustin raconte pendant 9 livres comment il a enfin trouvé la vérité.
Il revient sur le passé.
Le Dieu, parfait, et sa vie. Et Dieu est bon, la création est bonne. Et il répond dans les 4 derniers livres aux 2 questions qui l'ont torturé pendant 12 ans. Qui est Dieu ? Comment se le représenter ? Qu'est-ce que le mal ? Comment comprendre le mal ? La matière est-elle mauvaise ? La création est-elle mauvaise ? Alors, dans le livre 10, que M. Marion a magnifiquement commenté, le cogito augustinien, c'est-à-dire comment moi, petite créature, puis-je être en relation avec Dieu qui est l'absolu ? Dans le livre 11, après le livre 11, il va commenter le premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa. Alors, au commencement, c'est le livre 11. Dieu créa le ciel et la terre, 12 et 13. La création est bonne. Il donne les réponses aux questions qui l'ont torturé pendant 12 ans. Alors, la création est bonne. L'homme est créé bon. Comment se représente-t-il l'homme ? C'est l'image de l'héliotrope, du tournesol, si vous voulez. L'homme est comme l'héliotrope, comme le tournesol, a sa raison d'être en Dieu. L'homme est fait pour être tourné vers Dieu, pour recevoir de Dieu la lumière, la chaleur, l'être, pour contempler Dieu, pour recevoir la vie divine. Et il est constamment orienté vers Dieu. Mais voilà, chez l'homme, il y a une espèce de crampe qui fait que l'héliotrope, au lieu d'être orienté vers Dieu, vers le soleil de Dieu, se recourbe sur elle-même et se regarde le nombril. Ce n'est plus Dieu, c'est moi. C'est moi. C'est une espèce de torticolis, si vous voulez, qui forme d'égoïsme, d'égocentrisme, si vous voulez, fondamental. L'homme se préfère à Dieu. C'est l'idolâtrie, c'est ça, c'est se préférer à Dieu. Et c'est ce qu'a fait Adam, l'homme, le premier homme mythique de la Genèse. Il a préféré son propre savoir, son propre vouloir à celui de Dieu. Donc c'est une maladie de la volonté, si vous voulez. Le mal, c'est la volonté qui était faite pour la dilectio, pour l'amour de Dieu, pour la caritas, pour la charité. Elle devient la cupiditas, la concupiscentia, la libido.
Mais alors deux problèmes à ce que vous dites, Dominique Salin. D'une part, parler d'une maladie de la volonté, c'est comme si on déresponsabilisait l'homme, comme s'il était atteint de quelque chose qu'il ne pouvait contrer, contre lequel il ne pouvait aller. Et puis, autre problème, c'est se tourner vers Dieu, est-ce forcément faire le bien ?
Alors, vous avez raison, d'une certaine façon, la doctrine que je viens d'expliquer, je ne dirais pas qu'elle déresponsabilise l'homme, mais lui explique les limites de sa responsabilité. C'est, disons, la doctrine du péché originel, dont Augustin sera le théoricien. Et le théoricien, malheureusement, à partir d'une erreur de traduction de
Saint-Paul... Ah oui, vous pouvez nous raconter ceci, Dominique Salin, parce que c'est assez drôle.
C'est une histoire un peu compliquée, mais enfin, bon, on peut dire ça. C'est qu'en réalité, Augustin fait reposer l'histoire d'Adam sur une mauvaise lecture d'un verset, du verset 12 du chapitre 5 de l'Épître aux Romains, qui explique que en Adam, il a compris ça dans la version latine, puisqu'il ne lisait pas le grec, je vous rappelle. Il est le seul intellectuel latin, enfin du monde de l'Empire latin, à ne pas être bilingue, parce qu'il avait eu la flemme d'apprendre le grec à l'école. Bon, ça c'est une autre affaire. Donc il ne pouvait pas lire Saint Paul dans le grec, il le lisait dans une vieille traduction latine mauvaise.
Erronée.
Et erronée en plus, qui fait dire que par Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. La mort a atteint tous les hommes par celui en qui tous ont péché. Adam est, dans cette traduction, celui en qui tous les hommes ont péché. Autrement dit, c'est lui qui a péché. Et donc, à tous ses enfants, tout ce qui va sortir de ses reins, toute sa postérité, comme une maladie sexuellement transmissible, il va transmettre son péché. Alors que c'est pas ça que dit saint Paul. Saint Paul, dans le texte grec, ne dit pas que Adam est celui en qui tous ont péché. Il dit que par Adam, la mortalité a atteint tous les hommes, puisque tous les hommes ont péché. Il ne fait pas une relation de cause à effet entre le péché d'Adam et le péché de chacun. Adam, à cette étape de la réflexion d'Augustin dans les Confessions, du moins, plus tard, ce sera autre chose, ce qu'il appelle le péché originel, c'est le constat que le petit homme, et il a raconté ça très bien dans le premier livre, le petit homme, quand il naît dans un monde marqué par la violence, la souffrance et le péché. Sa maman, quand elle était enceinte de lui, elle a eu des angoisses, des souffrances, des peines, des tristesses, des joies aussi, tas de choses qui l'ont marqué, Augustin, un sens très très profond de l'humanité. L'homme naît, et Shakespeare explique ça très bien, l'homme naît dans un monde marqué par le mal, disons, la souffrance, voilà, et personne n'y échappe. Alors, il y a des hommes et des enfants qui naissent drôlement handicapés, d'autres moins handicapés. Et puis, il y a les formes de blessures que la vie infligera, des pertes, des deuils, des accidents, des traumatismes. Voilà. Ce qui fait que l'homme, vous avez raison d'une certaine façon, n'est pas complètement responsable.
Il subit le mal.
Du mal qu'il met. Je ne dirais pas qu'il est autant victime que coupable, le pécheur en général, mais une bonne part. Par exemple, à propos de la délinquance sexuelle, on sait très bien que la plupart des délinquants sexuels ont des gens qui ont été eux-mêmes victimes, pas toujours, mais souvent victimes, etc. Bon, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, la doctrine du péché, selon Augustin, et disons selon la pensée de l'Église, que je caricature là, parce que je suis obligé d'aller très vite, il ne nous reste plus que quelques minutes, c'est vrai, nous ne sommes pas complètement... Mais nous avons besoin, nous ne pouvons pas nous sauver tout seuls. Et c'était la grande erreur de Pélage et de Julien Desclanes, avec lesquels Augustin aura à croiser le fer dans les 20 dernières années de son épiscopat et de sa vie, ces hommes qui disaient « Mais vous savez, le péché, c'est pas très grave. Non, c'est pas bien grave. On peut se sauver tout seul, on n'a pas besoin de Dieu. » Or, Augustin, sa grande conviction, on l'accepte ou on l'accepte pas, mais c'est sa conviction profonde et c'est le moteur des confessions, C'est pas moi qui me suis sauvé moi-même, c'est pas moi qui me suis arraché au doute, au scepticisme, au désespoir, ce n'est pas moi qui me suis donné le salut, c'est la grâce de Dieu. Et je confesse la grâce de Dieu. Les confessions, avant d'être des aveux, c'est la confession, c'est-à-dire la proclamation. Confiteri en latin, ça veut dire proclamer. C'est la proclamation de la miséricorde et de l'amour de Dieu pour moi, qui a fait de moi ce pauvre type que j'étais, qui m'a donné la joie. Parce que je suis heureux d'être là où je suis. Donc, le salut, parce que le christianisme est une religion de salut, comme le manichéisme, mais bien autrement, le chrétien, Augustin, pense que c'est Dieu qui a, en la personne de Dieu pour nous, c'est-à-dire le Christ, qui l'a sauvé.
Mais on peut très bien aussi dire, et c'était ma question tout à l'heure, Dominique Salin, que se tourner vers Dieu comme le tournesol qui s'ouvre, qui s'élève au soleil, ne veut pas forcément dire faire le bien. Alors, on peut être tourné vers soi et faire le bien, sans être dans des intérêts bassement, vils, peu glorieux, etc.
Mais bien sûr, et Augustin lui-même sera le premier à dire « Bon, bah oui, je me suis converti, c'est vrai, j'ai compris qui vous êtes, je vous ai consacré ma vie, je suis devenu moine, j'ai renoncé à tout pour vous. » Maintenant, je suis prêtre et je suis évêque, et ça m'embête d'être évêque, parce que je ne voulais pas être évêque. On l'a forcé à devenir évêque, il voulait être moine, tout simplement, un sage. Bon. Mais tout d'un coup, je ne me rappelle plus la question que vous m'avez posée.
Est-ce que se tourner vers Dieu, c'est faire
le bien ?
Vers Dieu.
Mais je n'en demeure pas moins pécheur. Et je continue à faire des péchés. Je continue, tout Augustin que je sois, tout évêque que je sois, tout prédicateur, je ne suis pas un saint. Je me détourne de Dieu, je fais pas tout le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire.
Take a little walk to the edge of town and go across the track. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back.
Merci beaucoup Dominique Salin d'être venu nous parler du mal chez Saint Augustin. Je rappelle que l'on peut lire de vous l'expérience spirituelle et son langage, leçon sur la tradition mystique chrétienne. C'est aux éditions Faculté Jésuite de Paris. Mais on peut aussi lire de vous, l'édition critique que vous avez établie de l'abandon à la providence divine que l'on trouve chez Desclés des Brouwers. Et puis bien sûr, chers auditeurs, lisez les confessions de Saint Augustin. Vous les trouverez dans plusieurs éditions, alors notamment aux éditions Gallimard et aux Belles Lettres. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour la suite des confessions et demain nous nous demanderons comment passer de la crise à la conversion en nous attachant notamment au livre 7 à 10 donc de ces confessions et en compagnie de Jean-Luc Marion, membre de l'Académie française, professeur à l'Université de Chicago, professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne et auteur de « Au lieu de soi, l'approche de Saint-Augustin » disponible aux éditions PUF. Et quant à vous, si vous souhaitez réécouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger, la podcaster. Et vous y trouverez en plus toutes les références bibliographiques et musicales de chaque émission. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter pour suivre nos programmes.